Bonsoir. Dans un message à la nation rendu public le week-end dernier, le président de la République décide de convoquer le dialogue politique national inclusif. Selon l'ordonnance rendue publique lundi à cet effet, ce forum national va se dérouler à Kinshasa sous la co-modération d'un représentant de la majorité présidentielle et d'un autre de l'opposition. La date de ces assises n'est pas encore fixée. Dans un deuxième temps, nous parlerons de l'aviation militaire de la MONUSCO qui pilonne depuis mardi dernier plusieurs positions des rebelles ougandais des ADF dans le territoire de Beni. Le commandant intérimaire des forces de la MONUSCO a indiqué qu'il s'agit d'une réponse des casques bleus en appui au FRDC à l'attaque violente lancée dimanche dernier par ces rebelles contre la localité d'Eringeti où 24 personnes ont été tuées. Et pour en parler, je reçois trois confrères dans ce studio, disons deux dans ce studio et un au téléphone. Luc Mikomo Kabongatre, bonsoir cher confrère.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Congo Web Télévision, une télévision émettant de Kinshasa. Vous êtes également éditeur du journal Nouveau Regard et président provincial de l'Association catholique mondiale pour la communication Signis. Claude Molicho Kayembe, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Vous êtes journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC, également coordonnateur national des communicologues du troisième millénaire. Romain Kambala, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de la radio Kassai Horizon émettant à Tchikapa dans la province du Kassai. Bienvenue à tous dans votre émission. Je vous invite à suivre comment la presse quinoise a traité les sujets que nous abordons ce soir à travers cette revue de presse que nous présente Guy Maté.
La convocation du dialogue politique, la situation sécuritaire à Beni ainsi que la conférence sur le climat à Paris sont des sujets qui ont occupé la une des journaux quinois. Ainsi, l'Observateur titre « Kabila réaffirme sa volonté de convoquer le dialogue politique ». Dans un message à la Nation diffusé samedi 28 novembre 2015 à la RTNC, le président a annoncé la convocation d'un dialogue politique national inclusif regroupant les acteurs politiques de la majorité présidentielle, de l'opposition ainsi que de la société civile. La référence plus ce titre, la préoccupation de Joseph Kabila pour des élections peu coûteuses. Faisant les décomptes des fonds à débloquer par mois, près de 100 millions de dollars face à d'autres besoins du pays, notamment l'investissement pour le développement, le président de la République a insisté sur l'organisation des élections avec des moyens peu coûteux. L'agenda caché de Kabila titre le potentiel. Pour ce quotidien, il n'y a plus de mystère. La constitution du 18 février est bonne pour le placard. Le potentiel estime que la manière dont le président explique les problèmes dont il faut parler au dialogue, à savoir recensement, identification des nationaux, changement du système électoral en cours, dit en des termes à peine voilés que le schéma d'un changement des constitutions est enclenché. Il arrive à temps, Saïd Djinit, pour sauver le dialogue, titre le phare. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région de Galak est chargé d'une mission de bons offices auprès des autorités congolaises ainsi que de toutes les parties prenantes au dialogue national, présentement plombé à la suite du refus de plusieurs forces politiques et sociales d'adhérer au schéma de sa convocation par le chef de l'État, explique le journal. Sous le chapitre sécuritaire, l'ombre du terrorisme à Beni annonce la référence plus. Ce journal reprend les propos du général Jean Bayou, qui a déclaré mercredi 2 décembre au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies, l'ADF compte certainement en son sein des éléments venus d'ailleurs dont le mode opératoire n'est pas celui en cours habituellement en RDC. Ces éléments de l'ADF ont attaqué une base de la MONUSCO à Makindi, dans le Nord Kivu, faisant plusieurs morts au sein de la population civile, 4 dans le rang des FRDC et un casque bleu, rappelle la référence plus. La tempête tropicale ajoute qu'à la suite de ces incidents, New York invite Kinshasa à tout mettre en œuvre pour que les auteurs de ces attaques soient arrêtés et traduits en justice. Radio Capiponet rappelle qu'il se tient depuis lundi dernier à Paris, en France, la 21e édition mondiale de la conférence sur le climat COP21. L'objectif de ce forum est de réduire les degrés de pollution à travers le monde, précise ce site, qui annonce que l'une des premières retombées de cette conférence, c'est la décision de la France de débourser 2 milliards d'euros pour financer les projets d'énergie renouvelable en Afrique.
Merci Guy Maté, Luc Mikomo Kabongatre. Je rappelle que vous êtes journaliste à Congo Web Télévision, une télévision américaine. étant de Kinshasa également, éditeur du journal Nouveau Regard et président provincial de l'Association catholique mondiale pour la communication SIGNIS. Guy Maté terminait sa revue de presse par là. On sait qu'il y a ouverture depuis lundi à Paris en France de la 21e édition mondiale de la conférence sur le climat, COP21, dont l'objectif est de réduire le degré de pollution à travers le monde. Selon vous, que peuvent attendre les pays africains, en général et la RDC en particulier, brièvement?
Ben, d'une manière générale, si vous considérez l'Afrique dans sa globalité, excepté un peu l'Afrique du Nord, l'Afrique maghrébine, toute l'Afrique subsaharienne dispose d'un potentiel important des forêts pour participer à l'équilibre de la température mondiale. Mais plus précisément, la République démocratique du Congo, notre pays, mon pays. Mais quand vous voyez ce que font les autorités de notre pays pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo, c'est une voix qui reste inaudible. La preuve, c'est que
insuffisant.
C'est insuffisant. Je ne dis pas que les autorités de la République démocratique du Congo ne font absolument rien, mais ce qu'ils font aurait pu être mieux fait s'ils avaient mis sur place une stratégie de communication agressive pour faire entendre leur voix, la voix de la République démocratique du Congo, et par-delà bénéficier de fonds qui sont mis en jeu pour travailler à l'équilibre de la température mondiale. Mais plus on entend qui l'Afrique du Sud, pays désertique, on entend le Tchad,
le Cameroun,
le Congo-Brazzaville, et là aussi c'est un problème. Il y a eu près de 145 chefs d'État et de gouvernement qui ont effectué les déplacements de Paris. Je crois que le nôtre n'est pas parti. Et donc, ça pose un problème parce que
De représentativité au niveau.
Déléguer les ministres des Affaires étrangères, c'est une bonne chose. Mais il y a des cercles auxquels le ministre des Affaires étrangères n'a pas droit au chapitre. Et justement, c'est dans ces cercles-là que les grandes décisions sont prises. Voyez-vous ? Donc, il y a moyen que nos autorités puissent rectifier leur tir et considérer à sa juste valeur l'importance que revêt aujourd'hui cette lutte pour la sauvegarde de l'équilibre de la température mondiale et de mise sur pied des politiques idoines pour capitaliser tout le fonds qui viennent du nord, du sud, de l'est un peu moins, et de l'ouest beaucoup moins, afin que la République démocratique du Congo, qui regorge du deuxième bassin des forêts tropicales
au monde,
puisse bénéficier véritablement de tout ce qui est mis en jeu comme fonds, comme projet, j'en passe et des meilleurs.
Claude Molicho Kayembe, journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC, également coordonnateur national des communicologues du troisième millénaire. La RDC pourra-t-elle bénéficier de quelque chose d'assez significatif à l'issue de ce forum, selon vous?
Oui Alain, merci. D'abord je voudrais essayer un peu de préciser une chose par rapport à ce que mon confrère Luc Mikomo vient soulever ici. Vous savez que c'est pas seulement la présence du chef de l'État à Paris qui va faire en sorte que les Congo ne pèsent pas de tout son poids à la COP21.
Ça
compte, mais la délégation qui est à Paris, la délégation congolaise, a un mandat du chef de l'État. Le chef de l'État actuellement a d'autres priorités. Et aujourd'hui, et ça c'est une petite précision, mais selon la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, il y a un principe que nous devons savoir tous, qui est un principe de l'équité. Vous savez que les pays développés ont commencé à polluer l'environnement depuis des années, avec l'industrialisation, avec l'utilisation de charbon, de pétrole, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il y a un danger qui guette l'humanité toute entière. Maintenant, il se réveille pour dire que non, nous avons besoin de l'Afrique, parce que l'Afrique doit être en train de pousser son économie vers le développement. Et il fallait qu'il puisse changer la façon de gérer les choses sur le plan environnemental. Et le principe de l'équité doit être appliqué, c'est-à-dire ceux qui ont commencé à polluer depuis des années, avant même la Deuxième Guerre mondiale, doivent payer. Et c'est un peu d'amortir le choc de ce changement climatique, parce que les conséquences se font déjà sentir. Et il faudra 100 milliards, je précise 100 milliards de dollars, et ici jusqu'à présent, d'ici 2020, et nous n'avons que 10 milliards, et la France vient de promettre 2 milliards, et voilà l'écart. Est-ce qu'on y va y parvenir? On va arriver à ces chiffres-là. C'est ça la grande question. Ils ont cette obligation-là. C'est une obligation morale. C'est à préciser qu'ils doivent payer, et l'Afrique a encore des réserves comme la République démocratique du Congo, les pays de l'Afrique centrale, et il y a les sécheresses qui menacent à partir du nord de l'Afrique vers le sud, et des sud vers le centre. Nous, au centre, nous avons encore l'équilibre, nous pouvons encore supplier et atténuer ces chocs.
Claude Molisso, pensez-vous qu'on pourrait arriver à un accord contraignant, comme on le dit, à l'issue de ce forum?
Moi, je pense que nous sommes très loin, parce qu'il ne reste qu'une semaine avant la fin de ce sommet, la conférence de Paris sur le changement climatique, les parties sur le changement, la 21e conférence des parties sur le changement climatique, il n'y a que 5 ou 6 jours. Avec, à l'allure où vont les choses, je ne vois pas qu'il y a encore des pays qui vont se prononcer pour contribuer efficacement à arriver à ces chiffres-là de 100 milliards de dollars américains d'ici 2020. Ça sera peut-être difficile, donc ça sera peut-être qu'un échec comme Copenhague.
Romain Kambala, directeur de la radio Kassai Horizon, émettant à Chikapa dans la province du Kassai, comment suivez-vous cette actualité de la COP21 à partir de Chikapa?
Oui, Chikapa ne fait pas exception, c'est comme les autres entités de la RDC et du monde entier. Presque tous les pays décrit la hausse des températures due à des conséquences que nous connaissons. À Chikapa aussi, on est en train de se rendre compte que les effets du réchauffement climatique sont en train de se faire sentir, et il y a lieu de prendre des décisions qui sont les meilleures pour l'avenir.
Alors dites-nous, Romain Kambala, quels sont les autres sujets qui font l'actualité à Chikapa brièvement?
Oui, la grande actualité à Chikapa, c'est le lancement depuis mercredi 2 décembre dernier de journée locale de vaccination contre la poliomyélite. Vous savez, c'est vrai, la République démocratique du Congo est en train de cheminer en bonne et due forme vers la certification, c'est-à-dire qu'on puisse valider une fois pour toutes qu'il n'y a pas circulation de poliovirus sauvage en République démocratique du Congo. Mais pour arriver à cela, il faut des efforts massifs, des efforts supplémentaires. C'est dans ce cadre des efforts qu'on a pu organiser ces journées locales de vaccination pour tous les enfants de 0 à 59 mois. Cette activité a été ouverte ou lancée ainsi par le nouveau commissaire spécial, M. Marc Manyanga, en la date du 2 décembre 2014, 2015, et vont se poursuivre jusque demain, parce que la vaccination a débuté, l'activité en soi de vaccination a débuté le 3 pour se clôturer le 5. Voilà au moins l'actualité. Merci. À Chikapa et pour l'heure. Sommes en pleine activité de vaccination.
Merci Romain Kambala. Oui. Nous passons à notre premier thème de ce soir. Le président de la République décide de convoquer le dialogue politique national inclusif. Joseph Kabila l'a annoncé le week-end dernier dans un message à la nation diffusé sur la télévision nationale congolaise. Sans donner la date ni le lieu de l'organisation de ces assises, le chef de l'État a affirmé que sa décision fait suite à sa consultation pendant près de 6 mois des acteurs politiques, de la société civile, des institutions de la République et des partenaires. On l'écoute dans cet extrait choisi par Radio Okapi.
Le financement du processus électoral nous impose une réflexion profonde. En effet, à ce jour, la CENI a communiqué à toutes les parties prenantes au processus électoral un budget équivalent en fonds congolais à 1 milliard 200 millions de dollars américains pour financer l'ensemble du processus électoral. Pour l'année 2016, le gouvernement a prévu dans le projet de loi de finances une enveloppe équivalente à 500 millions de dollars, soit moins de la moitié du budget précité, et avec pour contrainte de débloquer plusieurs dizaines de millions de dollars par mois, ce que la capacité de mobilisation actuelle des recettes ne permet pas. Comment résoudre un tel dilemme? Ne peut-on pas engager dès à présent une réflexion sur un système électoral avec des modalités de vote peu coûteuses, comme c'est le cas dans d'autres pays? Comment allier deux impératifs majeurs, à savoir la démocratie et le développement, et éviter que le processus électoral ne soit en conflit ouvert avec nos efforts de développement. Ensemble, il nous faut lever des options à la fois courageuses et pragmatiques sur les réformes qui s'imposent sur tous ces sujets relatifs à la gouvernance électorale de notre pays.
L'UDPS refuse de participer au dialogue annoncé par le chef de l'État. Elle accuse Joseph Kabila de vouloir organiser un dialogue à sa manière. Il accuse également des dérives visant la modification du système électoral. Selon le secrétaire national en charge des relations extérieures du parti d'Étienne Tshisekedi, le seul dialogue auquel le parti souscrit reste celui qui sera convoqué par un facilitateur international neutre. Félix Tshisekedi l'a dit à Jeff Ngoy.
L'UDPS participera à un dialogue qui se placera sous l'égide de la communauté internationale. Donc un dialogue à la sauce Kabila ne nous intéresse pas, et lui le sait d'ailleurs parce que nous avions eu deux rounds de pré-discussion avant le dialogue, donc il sait très bien que ce dialogue doit se tenir de manière concertée. Il faut que nous nous entendions à la fois sur la date, sur le lieu, sur les thèmes, etc. Or nous voyons qu'il est en train de diriger tout seul les choses en essayant d'imposer sa vision. Et ça, nous disons non, donc nous ne participerons pas à un dialogue made in Kabila. Il fallait laisser à la communauté internationale, au secrétaire général de l'ONU, de désigner un facilitateur. Nous ne comprenons pas cette précipitation. Elle cache manifestement quelque chose, d'autant plus que dans son discours, M. Kabila a été totalement à faune sur les problèmes qui le concernent, c'est-à-dire la fin de son mandat et l'alternance démocratique.
Luc Mikomo, le président de la République, convoque le dialogue. Parmi les réactions, l'UDPS ne participera pas au dialogue. Comment vous comprenez tout ça?
Bien, il fallait s'y attendre. D'abord, quand j'ai suivi le chef de l'État, puis j'ai lu son discours, je me suis rendu compte que Kabila a prononcé un discours de 47 phrases, avec plus de 150 propositions, parce que les phrases sont généralement longues. Et dans ce discours, Kabila utilise 12 fois le jeu ou des qualificatifs de la première personne. Plus précisément, il utilise « je », je crois 8 fois. Mais c'est le troisième « je » qui fâche. C'est celui où il dit « j'ai décidé ce jour de la convocation du dialogue », ainsi de suite. Et donc, l'adresse du chef de l'État, il y a deux approches qui me paraissent plus ou moins contradictoires. Dans un premier temps, le chef de l'État conçoit les dialogues tels que énoncés dans l'esprit et la lettre de l'accord global. Mais hélas, cet accord, l'accord cadre d'Addis Abeba, ceux qui ont lu attentivement cet accord se rendent compte que l'accord cadre d'Addis Abeba met tous les belligérants sur un pied d'égalité. Et dans l'accord cadre, on ne parle pas de l'UDPS, on parle de Tshisekedi. Du moins, dans la résolution
2098.
Et ce qui fâche davantage ici, c'est que le président de la République semble avoir donné un schéma formellement correct. Il y a un problème, c'est vrai, et il propose des pistes pour résoudre ce problème-là. À la différence du discours de Mobutu de avril 1990, Mobutu a dit « j'ai parlé de tous, sauf de moi ». Que va devenir le président du MPR? Cet aspect de problème...
Mais Luc Mikomo, il y a plusieurs observateurs qui estiment que le président Kabila n'a pas parlé de lui-même. Il aurait dû donner une position claire par rapport à sa situation.
Oui, c'est ça que je veux dire. Le chef de l'État, je vous ai dit, qu'il parle de la nation après les constats qu'il a fait lui. Et là, il parle à la première personne du singulier. Je vous dis que 12 fois, il a utilisé des expressions « je », « mais », « moi », « mon » pour donner à la nation sa lecture de la situation. Et 22 fois, il parle de « nous », « notre », « nos ». Mais quand il parle de lui, malheureusement, je disais tout à l'heure, contrairement à Mobutu qui avait fait une autopsie sociale, les chefs de l'État ne parlent pas de lui-même, et on a entendu Félix Tshisekedi le dire. Et là, ça pose problème. Et dans l'esprit de l'accord cadre d'Addis Abeba, je termine par là, la convocation du dialogue inclusif émane de la responsabilité de la communauté internationale. Mais on aurait dû refuser de signer cet accord-là au départ, puisqu'on l'a signé. Donc, ayant accepté les prémices, on doit accepter tout naturellement la conclusion.
Claude Molichaud, plusieurs observateurs ont estimé, notamment l'opposition, que le président Kabila ne devrait pas, lui, convoquer ce dialogue, d'autant plus qu'il fait partie du problème.
Non, c'est pas cela. Il faut d'abord préciser qu'une chose est très importante. Joseph Kabila, jusqu'à aujourd'hui, il est président de la République démocratique du Congo. Et il est en plein mandat. Et son mandat court jusqu'au 20 décembre 2016. Et il n'y a que lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il est commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale. Donc, même si on parle, et même l'exposé du motif de l'ordonnance portant convocation du dialogue national inclusif fait allusion à l'accord cadre d'Addis Abeba, je ne sais pas si mon frère Luc Mikombo a essayé un peu de jeter un coup d'œil dans cet accord. Si. Il y a la responsabilité des pays, les 11 pays de la région des Grands Lacs, et la région de la Sirigel, et la République démocratique, qu'est-ce que le gouvernement congolais doit faire pour faire avancer les choses dans la région? Il n'y a pas de belligérance. Quand Luc Mikombo parle de belligérance, je ne sais pas c'est quelle belligérance. Ça, c'est un des deux. Je reviens sur les propos de Félix Tshisekedi. Parce que il faut en parler. Il dit qu'est-ce que signifie le dialogue à la sauce Kabila, qu'est-ce que signifie le dialogue made in Kabila. Et il dit dialogue made in Kabila, dialogue à la sauce de Kabila. Qu'est-ce que signifie tout cela? Moi, je me pose la question. Qu'est-ce que signifie tout cela? Il veut dire quoi? Ce n'est pas indiqué, c'est le moment indiqué où le président de la République pouvait parler de lui-même, ou de dire s'il va se présenter en 2016 ou pas. Non! Là, en tant que chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, et la Constitution lui confère ce pouvoir-là de convoquer. Cette génie était en train de consulter l'opposition, la société civile et toute la classe politique. Est-ce que vous pensez que Saïd Djinit, qui agit au nom du secrétaire général des Nations Unies, peut tout d'un coup se lever un matin et dire que je convoque le dialogue? Non. Alors, il faudra un cadre bien précis, et ce cadre doit être juridique. Nous sommes intellectuels. Nous ne pouvons pas vraiment parler comme si nous sommes dans un pays où il n'y a pas de loi.
Alors, non. Claude Molichaud, l'opposition notamment, et plusieurs observateurs, ont relevé le fait que, ont fustigé le fait que le président de la République parle d'une réflexion qu'il faudrait mener sur un système électoral peu coûteux. Et ça oui, a suscité également beaucoup de
problèmes. Ce n'est pas une décision, là, il faut encore préciser, parce qu'on veut vraiment amener la confusion dans l'esprit des Congolais. Ce n'est pas une décision de Joseph Kabila Kabange. C'est une proposition. Quand Joseph Kabila Kabange il dit, ne peut-on pas engager une réflexion? C'est une proposition. Quand il dit qu'il faut changer le mode de vie, ce n'est pas une décision qu'il a dit, désormais, on a changé. S'il veut décider quelque chose, il a le pouvoir, l'ordonnance, il peut signer l'ordonnance, la Constitution lui confère ce pouvoir-là. Mais ce sont des propositions qu'il soumet à la classe politique. Si l'opposition n'est pas d'accord avec ces propositions, qu'elle vienne discuter au sein du dialogue. Et ils ont le droit de le faire. Ce n'est pas tellement tout d'un coup de continuer à prêter les intentions et envoyer même les gens dans la rue pour aller casser et détruire ce qu'on a construit. Ce n'est pas bon.
Romain Kambala, il faut réfléchir sur un système électoral peu coûteux. Claude Molichaud dit que le président de la République n'a fait que soumettre ça à la réflexion de la nation et que ce n'est pas une décision. Comment vous comprenez cette adresse du chef de l'État sur le dialogue? Romain Kambala? Voilà, je crois qu'on a perdu Romain Kambala. La réalisation va tenter de le retrouver. Luc Mikombo vous demandait instamment la parole.
Oui, je constate avec consternation que mon confrère Claude n'a jamais lu l'accord cadre d'Addis Abeba et n'a jamais lu les résolutions relatives à l'accord cadre d'Addis Abeba. Parce que lui n'a jamais vu les termes belligérants dans cet accord. Et là, franchement, confrère, je suis surpris que cela vienne.
Alors,
de vous.
Passons au détail.
Moi, je dis ceci.
S'il vous plaît, passons au détail. Allons à l'essentiel.
Le chef de l'État dit peut-être avec raison.
Allez, aussi. Vous allez parler, Claude, vous allez parler.
Le chef de l'État dit avec raison que la formule actuelle des élections paraît coûteuse. Et il a raison. Il constate que nous risquons de revivre les affres de 2009, 2006, 2011, et que actuellement les choses se présentent sous des mauvais jours.
Mais est-ce que cette réflexion est opportune, Luc Mikomo, concernant Claude Sely? Vous allez répondre, c'est pas à vous que j'ai posé la question, c'est à Luc Mikomo.
Oui, nous sommes dans un système démocratique. Chacun est libre d'exprimer sa pensée. Je crois que la réflexion est opportune. Mais tout ce que je veux dire à Claude, parce qu'on entend parler les acteurs de la société civile, de l'opposition, même de la majorité, donc on pense que si aujourd'hui on n'est pas arrivé à organiser les élections, le chef de l'État porte une partie de la responsabilité. Je vais vous citer par exemple...
Très rapidement, parce que Romain Kambala est en ligne.
Que nous recevons sur nos plateaux, dit que les chefs de l'État se trouvent dans les top 3 des champions pour le non-respect du budget voté. Et que par ailleurs, il y a environ, il se base sur un rapport présenté par la Cour des comptes, que 191 projets non budgétisés ont été financés, réalisés. Et ces 191 projets représentent une bagatelle somme de 1,2 milliard de francs congolais, donc presque
Merci.
Le même montant.
Très rapidement, Claude, très rapidement, c'est parce que Romain Kambala est en ligne, on va lui accorder la parole.
Du budget, les prévisions budgétaires ont leur ligne. Ce sont des prévisions, on a prévu autant pour tel projet, tant pour tel. Est-ce que vous pouvez m'affirmer que on a voté, par exemple, pour les élections, tel chiffre, qu'on n'a pas dégagé,
Claude Molichaud, concernant les élections, je posais tout à l'heure la question à Luc Mikomo et vous y avez presque répondu. Est-ce que la réflexion du chef de l'État sur le changement du mode de scrutin est opportune? Ayant connu les élections de 2006, de 2011, est-ce qu'elle est opportune en ce moment?
Mais vu l'expérience du passé, parce que le passé doit nous donner des leçons. Il a évoqué dans son message comment les choses se sont passées en 2006 et en 2011, et on était tous ici cloués dans nos maisons. Hein. Il y avait l'insécurité totale. Et il faut éviter cela en 2016. Et il faut prévenir. Et c'est dans ce sens-là qu'il a proposé. Il n'a pas décidé. Et si l'opposition n'est pas d'accord,
qu'elle amène des contre-propositions.
Qu'elle amène des contre-propositions, dialogue. Ou soit. Tout dans cette question, qui fasse figurer ces points
à l'ordre du jour du dialogue.
Ils peuvent s'opposer là-dedans. Pas
Merci.
Dire déjà, parce que l'opposition congolaise ne fait que prêter des mauvaises intentions à Kabila. Et ils ont été les premiers à réclamer le calendrier global inclusif. À l'époque de Maloubalo, vous vous souvenez? On a donné le calendrier politique, non, fichier électoral. Ils ont réclamé le fichier électoral jusqu'au niveau des ambassades avec des mémos. On a dit qu'il faut. Joseph Kabila a dit que je suis d'accord, on va discuter au dialogue. Venez au dialogue, il commence à dire.
Merci.
Il va envoyer la population dans la rue. C'est pas normal.
Romain Kambala, est-ce que vous êtes en ligne? Vous nous suivez?
Je suis en ligne, merci.
Voilà. Certains observateurs affirment qu'avec le refus d'une grande frange de l'opposition de participer à ce dialogue, celui-ci serait déjà un mort-né. Quel est votre point de vue?
Ça, c'est le point de vue de ceux qui pensent que le refus donne déjà lieu à un mort-né. Mais moi, je pense que d'une manière beaucoup plus individuelle, il faut que les gens aillent à ce dialogue. Aller au dialogue ne signifie pas accepter tout ce qui vous est proposé. D'autant plus que le confrère venait de le dire, que toutes les propositions, le président de la République a proposé. Si c'était des décisions communiquées, on en irait autrement. Mais comme ce sont des propositions, on peut les accepter ou les refuser. Alors cela n'exclut pas que les gens puissent se servir pour dire nous n'allons pas au dialogue. Autant dialoguer, c'est bien, quand les propositions sont bonnes, quand les résolutions sont consensuelles, on les adopte. Quand le point de vue diverge, ok, on refuse. Je ne vois pas pourquoi les gens peuvent refuser d'aller au dialogue.
Et donc vous pensez que les différents points de vue, notamment émis par l'opposition, comme disait Claude Molichaud, ne font que prêter des intentions au président de la République?
Non. Sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec Claude. Il dit qu'on prête des intentions au président de la République. Non, on ne lui prête pas des intentions. Par contre, on découvre dans les livres du président de la République les intentions qui l'animent. Parce que si aujourd'hui, réellement, il faut accepter qu'on dialogue, oui. Pourquoi pas on n'a pas dialogué en 2006, pourquoi En 2011, on n'a pas dialogué et aujourd'hui, il est fait mandat. On sait qu'il ne peut pas se représenter au prescrit de la Constitution, il faut aller au dialogue. Et là, les gens peuvent dire qu'il y a peut-être un Dussourouche où il y a une main noire. Mais néanmoins, il ne faut pas accuser ceux de l'autre camp pour dire non, non, écoutez, ils prêtent des intentions. En faisant leur lecture, ils sont libres de voir peut-être que le président de la République a un agenda caché ou sa suite a un agenda caché. Voilà pourquoi eux veulent prendre des positions qu'ils veulent là. Mais moi, je préfère que pour ne pas prêter des intentions à X, Y, ou penser, aller au-delà de la pensée de l'autre, autant accepter de se mettre autour d'une table et écouter l'un et l'autre et arriver à une décision qui soit la bonne et qui soit consensuelle.
Voilà, je me rends compte que le temps est en train de filer, on n'a plus vraiment beaucoup de temps. Nous allons devoir être brefs dans les interventions. Luc Mikomo, le caractère inclusif de ce dialogue sera-t-il respecté?
Je crois que non. De prime abord, j'ose croire qu'il y a déjà une frange de l'opposition anti-dialogue qui ne participera pas à ce dialogue-là, même si elle avait été convoquée par la communauté internationale. C'est le cas de la dynamique de l'opposition qui dit « Oui, nous refusons ce dialogue-là parce qu'il y a des actes manifestes qui nous montre qu'il y a anguille sous roche. Tenez Claude, vous qui ne voyez pas et qui ne voulez pas comprendre. En 2013, les évêques tirent la sonnette d'alarme pour dire « Attention, il y a une intention de vouloir modifier la Constitution. » Le porte-parole du gouvernement leur répond, il dit « Mais de quoi ils se mêlent ?» Puis, nous sommes le 19, le 20, le 21 de l'année en cours. Il y a eu véritablement une tentative de modification de la Constitution. Tout ça, ça donne matière à réflexion pour ceux dont vous dites qu'ils sont animés de volonté à pouvoir prêter des intentions au chef de l'État. Ça veut dire que c'est une réflexion qui est basée sur des actes concrets et non et pas sur
des supputations.
Et
donc, parce qu'on va conclure le premier thème avec ce tour de table, Luc Mikomo, et donc pour vous, en un mot, ce dialogue s'annonce être très difficile.
Moi, j'ose croire que tous les ingrédients sont réunis pour dire que s'il y a dialogue aujourd'hui, ça sera la copie conforme
des consultations nationales
dont on a pu attendre une année, deux mois pour voir
les premières recommandations.
La formation d'un gouvernement qu'on a appelé le gouvernement de cohésion nationale.
Claude Molisso, faut-il espérer par rapport au dialogue convoqué par le président?
Moi, j'ai dit Alain qu'il faut toujours espérer. Mais il faut d'abord se poser la question, qui sont les demandeurs de ce dialogue? Depuis toujours et depuis longtemps. Qui sont demandeurs? Ce n'est pas Joseph Kabila. Depuis 3 ou 4 ans, l'opposition n'a fait que demander ce dialogue.
Mais on s'est rendu compte qu'en dernière minute, le président Kabila aussi a senti
la nécessité de dialoguer. Non, c'est le problème à l'air étrangisant. Ils veulent toujours se camper sur leur position. Quand on a appelé tout le monde de venir aux concertations, il y a un camp de l'opposition, une frange de l'opposition qui a dit que non, nous ne venons pas. Et aujourd'hui, ils ont... Et à l'époque, en 2013, ils ont dit, nous voulons un dialogue inclusif, national inclusif.
Alors, en un mot, faut-il espérer, comment vous entrevoyez là?
Moi, je pense que le schéma de la paix, il y a eu des pré-négociations, s'il faut les qualifier ainsi, entre guillemets. Vous vous souvenez des contacts entre l'UDPS et les gens de la majorité présidentielle au sud-est de l'Europe, en Italie, en Espagne. C'est-à-dire qu'il y a eu des contacts entre les deux camps, l'opposition et la majorité.
Mais comment tu as vu l'opposition à l'UDPS?
Et donc, il y a une phrase de l'opposition, parce qu'il y a d'autres. Et le schéma, écoutez-moi, donnez-moi un peu de temps, parce que les autres...
On va aborder le deuxième
thème. Et le schéma de la paix, c'est quoi? Il n'y a pas de paix sans négociation. Il n'y a pas de négociation sans concession. Il n'y a pas de négociation sans compromis. Il n'y a pas de compromis sans reconnaissance mutuelle. Il y a déjà reconnaissance mutuelle. On peut remonter vers les concessions et jusqu'à arriver vers des compromis. Et je suis sûr qu'il faut avoir de l'espoir. Il y aura dialogue. Le dialogue, il y en aura. Et ces gens-là viendront.
Merci.
Parce qu'aujourd'hui, ils ont réclamé la médiation.
Et merci.
Joseph Kabila n'est pas opposé à la médiation internationale. Saïd Djinit a commencé son travail.
Merci.
Et il va concilier les vies de tout le monde.
Romain Kambala, est pour vous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut d'abord aller au dialogue sans poser des préalables.
Non, je ne dis pas aller au dialogue sans poser de préalables. parce que je l'avais dit encore sur les mêmes antennes que au départ, il faut qu'on fasse le dialogue et il faut établir bien le cahier de charges, savoir de quoi il sera question à ces dialogues, sur quel point allons-nous débattre. Et on a besoin de connaître la position avec laquelle l'un et l'autre, ou l'une de l'autre des parties, entendent ce dialogue. Donc, au juste, il ne faut pas dire qu'il faut aller au dialogue sans préalable. Il faut qu'il y ait des préalables pour que cela serve de cuillère, pour pouvoir respecter ce qu'il faut respecter et entamer bien entendu le pourparler. Sinon, s'il n'y a pas de préalable, ça sera du n'importe quoi.
Merci. Nous passons à notre deuxième thème et je signale qu'on a vraiment très peu de temps. On ira à l'essentiel. L'aviation militaire de la MONUSCO pilonne depuis mardi dernier plusieurs positions des ADF dans le territoire de Béni, au Nord Kivu, sans donner des détails sur les positions rebelles attaquées. Le commandant intérimaire des forces de la MONUSCO affirme que c'est une réponse des casques bleus en appui au FRDC après l'attaque violente de la localité d'Eringeti dimanche dernier par ces rebelles ougandais. Ces actions ont pour but de neutraliser toutes les positions ADF, précise le général Jean Bayot au micro de Martial Papi Moukeba.
Toute la journée de dimanche, jusqu'à présent, nous avons non seulement suivi la situation, mais pris un certain nombre d'actions. Je tiens à souligner la gravité, effectivement, de ce qui s'est passé à Eringeti. Et ce sont des combats extrêmement durs qui ont malheureusement coûté la vie d'un casque bleu du Malawi, blessé gravement un autre, et aussi endommagé certains de nos véhicules auxquels nous avons dû faire face. Nous avons réagi. Nous sommes actuellement en action. Nous avons suivi, par différents moyens, le chemin pris dans la brousse par ces terroristes, par ces criminels, et nous les avons attaqués ce matin. Avec nos hélicoptères, avec notre artillerie, nous avons démontré effectivement que le moment d'éradication et de neutralisation de ce groupe a commencé. Les actions qui suivent effectivement les attaques d'Eringeti concernent effectivement la MONUSCO en appui des FRDC. Elles visent à neutraliser les positions d'ADF à l'intérieur de la forêt. Elles ont lieu actuellement.
Voilà, je rappelle et j'insiste qu'il nous reste juste 5 minutes pour terminer cette émission. Et donc, j'aimerais des réponses très brèves. Romain Kambala, vous êtes directeur de la radio Kassai Horizon, émettant à Tchikapa dans la province du Kassai. Comment vous analysez ces nouvelles opérations pour neutraliser les ADF qui semblent avoir la peau dure, poser des résistances?
Oui, effectivement, les frappes de la MONUSCO sont à encourager une fois pour toutes hors de l'état de nuire le rebelle des ADF. Mais une question me vient à l'esprit peut-être, c'est de savoir quel est le niveau de négociation entre les deux pays, l'Ouganda et la RDC, par rapport à la présence de ces rebelles sur notre sol. Et quelle est leur base arrière? Voilà les questions auxquelles on devrait d'abord répondre ou se demander avant d'aller à l'attaque. Parce que de tous les temps, les ADF n'ont pas existé en République ou sur le territoire congolais en 2015. Tous ces temps, les ADF sont là, on met de Bévue dans les différentes contrées de la République. J'accuse, il n'y a pas eu une léthargie de la MONUSCO qui a attendu longtemps, parce que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il aurait dû le faire longtemps. Et la situation de Suzadef Nalou serait tellement réduite. Merci. Aussi longtemps qu'on leur a donné du temps à les laisser camper dans leur position, dire que si jamais ils bougeaient, on va les attaquer. Et là, ils se sont permis de poser les actes qu'ils ont posés. Faut-il aussi comprendre, est-ce que c'est réellement seul les ADF Nalou ou il y a d'autres corpuscules qui se sont ajoutés? Parce qu'à entendre la façon dont la chose est en train d'être décrite, donc il y a d'autres groupes qui se sont infiltrés avec d'autres stratégies. Mais le travail que la MONUSCO est en train de faire pour le moment est encouragé.
Romain
pour
Kambala.
Donner la paix aux occupants des différentes contrées qui sont attaquées par les ADF Nalou.
Romain Kambala, et donc en un mot pour vous, la solution durable, elle serait plutôt régionale ou sous-régionale. Il faut intégrer tous les autres pays, notamment l'Ouganda, pour une solution durable.
Bon, pour une solution durable, automatiquement, il faut intégrer aussi l'Ouganda. Parce que l'Ouganda, si l'Ouganda déclare que les ADF Nalou sont rebelles d'abord au régime en place chez eux, donc il y a lieu de s'associer aux forces de notre pays qui sont en train de lutter contre cela et faire la guerre ensemble. Je pense que la force sous-régionale serait la bonne.
Merci. Claude Molicho Kayembe, vous êtes journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise, RTNC, également coordonnateur national des communicologues du troisième millénaire. Des nouveaux massacres perpétrés à Beni, à Eringeti, 24 civils tués le week-end dernier, et ces nouvelles opérations contre les ADF pour les neutraliser. Comment vous analysez tout ça?
Alain, c'est pas aujourd'hui seulement, c'est depuis quelques mois, c'est pas quelques années, que le Nord Kivu, notamment c'est cette partie de Beni-Mahou, est en insécurité. Et c'est une forme de terrorisme, parce qu'on est en train de ventrer les femmes, de dépiécer les corps humains, ce n'est pas normal. Mais ce que moi je déplore, c'est la position de la MONUSCO. La MONUSCO a commencé à constater cela depuis une période donnée, depuis longtemps. Pourquoi elle vient toujours en retard? On a vu même avec les opérations contre les CNDP ou l'M23.
Il y a aussi tout un gouvernement congolais qui est responsable et qui ne doit pas tout attendre de la MONUSCO.
Bien sûr, le gouvernement est sur le terrain. Ça, vous le savez, nous sommes d'accord, vous et moi, nous savons qu'il y a les forces armées de la République démocratique qui sont sur le terrain opérationnellement, qui sont en train d'agir. Mais la MONUSCO est venue au Congo, pourquoi? Pour ne pas mourir, parce que s'il y a guerre, il y aura des victimes toujours. Voilà, aujourd'hui, la MONUSCO vient d'enregistrer aussi des victimes.
Mais quelle est la solution durable?
La solution durable, c'est une action conjuguée. Les FRDC, quand ils ont commencé ces opérations-là au Nord Kivu, la MONUSCO a traîné le pied. Pourquoi? Parce qu'elle est venue pour ça. Et ici, à la MONUSCO, on nous avait dit que non. Et on a constaté toutes les troupes de ce côté-là, de l'Est, pour essayer un peu de nettoyer et puis de mettre fin à ces mouvements de Maï-Maï, au FDLR, ainsi de suite.
Alors, une action conjuguée, ça passe par quoi concrètement?
Ça passe
quoi?
Parce que c'est-à-dire que toutes les forces, les Nations Unies, les
sous-régions,
la sous-région, tout, les Rwanda, Ouganda, Congo, les Nations Unies, tout le monde vraiment vienne, et que tout le monde vienne pour essayer un peu de mettre fin à ces mouvements de bandes armées. C'est pas seulement les FDLR ou ADF Nalu, même les Maï-Maï, il faut vraiment les étouffer, les anéantir, déterminer. Merci. Et comme ça la région respire, parce que ça a une implication sur le Rwanda, sur le Luganda et sur toute la région.
Et sur le développement de la région. Luc Mikomo Kabongatre, vous êtes journaliste à Congo Web Télévision, une télévision émettant de Kinshasa. Vous êtes également éditeur du journal Nouveau Regard et président provincial de l'Association catholique mondiale pour la communication Signis. Nous allons terminer par vous. Quelle est votre perception et quelle est la solution durable par rapport à l'insécurité à l'Est?
D'abord, je voudrais évoquer Rudy qui écrivait dans « Faut-il juger George Bush » que critiquer son gouvernement, c'est lui faire des compliments et c'est l'inciter à aller à l'essentiel. Claude, moi je ne suis pas d'accord avec votre approche de dire qu'il faut une action concertée et ainsi
conjuguée.
De suite. D'abord, la République démocratique du Congo doit prendre en main la question de sa sécurité. Il y a environ plus de deux décennies que l'Est de la République démocratique du Congo est devenu le ventre mou de la République. L'Angola était en guerre pendant plus de 17 ans.
Mais il y a des forces
instant, s'il vous plaît.
Claude Monet, s'il vous plaît, laissez-lui parler.
À un moment donné, l'Angola a recouru à la communauté internationale. C'est terminé et aujourd'hui l'Angola assure seule sa sécurité nationale.
Et pourquoi pas chez nous?
Aujourd'hui, ça fait bientôt 20 ans que la MONUSCO est chez nous.
Oui, qu'est-ce qu'elle fait?
Quelle est la solution durable, Luc?
La solution durable, me semble-t-il, c'est celle d'abord de la prise en charge de la sécurité nationale par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Pas seulement le gouvernement actuel, par tous les gouvernements du pays, doter les pays d'une armée républicaine forte et dissuasive pour que n'importe qui ne vienne pas fourrer son nez ici pour n'importe quelle aventure.
Merci.
Mais enfin, le dernier appui pourra venir en supplément par rapport à ce qu'on aura mis sur place comme stratégie.
Merci, chers confrères. Fin de cette émission. Réalisation Guy Maté, mise en onde André Mongou, supervision Julien Nyamouni, présentation et coordination Alain Irung Mouchige. Bon week-end à vous.